un certain nombre d'entre eux qui sont en visio, ben nous vous saluons. Nous espérons que tout va bien se passer. Nous vous conseillons de couper votre son, c'est ça, Isabelle?
S'il vous plaît, les micros.
Coupez vos micros et quand vous aurez des questions, ce sera sur le, comment on prononce? Chat,
Sur le, la
chat.
discussion, en ligne.
Voilà.
Bon, alors, question préjudicielle. Est-ce que les gens ici sont suffisamment informés et que je n'ai pas besoin de raconter le conte de Jean de l'Ours?
Oui, on en reparlera après toute l'après-midi, vous inquiétez pas.
Bon,
Alors, il faut
d'accord.
poser la
Donc,
question.
j'attaque directement comme si tout le monde savait.
Il faut peut-être demander aussi à ceux qui
Oui.
sont en visio.
Peut-être faire un léger résumé des grandes phases, peut-être, voilà, de
Et
manière à ce que tout le
ouais.
monde se remémore bien
peut-être aussi
l'histoire.
pour commencer, si vous voulez bien vous présenter en quelques mots.
Moi?
Oui.
Oui.
Ah, que je me présente en quelques
En
mots,
quelques
mais
mots.
non, bon, il y en aurait pour très longtemps. Bon, alors, donc, je suis,
Merci.
j'étais, je suis retraité, ça ne se voit pas, hein. J'étais chercheur au CNRS depuis longtemps, j'ai passé 17 ans de ma carrière dans l'enseignement et après je suis rentré au CNRS. Voilà, je suis aussi, jusqu'à la fin de l'année, président de la Société de mythologie française. Bon, et puis, bon, j'ai fait, monsieur a aligné trois de mes livres, mais j'en ai fait beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. J'ai beaucoup de choses à dire. Je dois dire tout de suite que malgré mon âge actuel, j'ai encore beaucoup de projets, de nouveaux livres à écrire. Ah bah oui,
Oui.
j'écrirai un livre sur la stratigraphie de légendaires bretons. J'écrirai un livre sur huit épopées indo-européennes. Il y a du boulot. Bon, voilà. Ça y est, pour la présentation, ça va?
Oui, pas de souci pour moi.
D'accord. OK. Bernard Sergent. Et seulement Bernard Sergent, il n'y a pas 36 prénoms. Bernard Sergent. Voilà. Donc, je vais vous parler donc aujourd'hui du conte de Jean de l'Ours et de choses qui concernent ce conte de Jean de l'Ours. Alors, je rappelle. Comme vous dites très rapidement l'histoire, donc une femme a été capturée par un ours, elle a eu un enfant, qu'on appellera donc Jean de l'ours. L'ours l'avait emmené dans une caverne, il avait fermé la caverne par une très grosse pierre, la femme n'avait pas les moyens de l'ouvrir, mais le garçon, le petit garçon, il grandit, il grandit, il grandit, il devient donc Jean de l'ours, un type extrêmement fort, et donc il pousse un jour la pierre. La mère et l'enfant s'enfuient, et à ce moment-là commencent les aventures de Jean de l'Ours. Il travaille d'abord chez un forgeron, il se fait une énorme barre de fer, une massue, etc. Et il part à l'aventure. Il rencontre là des compagnons, et là on est dans un des nœuds du problème, à mon avis. Ces compagnons ont toujours des noms ronflants. Écrase montagne, arrache chêne, etc., etc. Et dans le conte tel qu'il est raconté en France, ces noms sont uniquement ronflants, c'est-à-dire qu'ils ne se livrent jamais à des opérations qui vont prouver leur capacité. Il faut sortir de France, il faut pratiquement aller en Asie centrale pour trouver des versions où les noms en question répondent à des actions. Le gars qui écrase des montagnes, et ben il va supprimer une montagne qui est sur chemin, en Asie centrale. Voilà, vous voyez, donc on touche tout de suite à des problèmes considérables sur l'histoire du conte, etc. Bon, ces gens-là, c'est trois, normalement, ils sont trois. Jean de l'Ours et deux compagnons, ils arrivent dans une maison où chacun, où il y a de quoi manger, à condition de préparer la nourriture. Chacun des trois, à tour de rôle, va préparer la nourriture pendant que les deux autres vont chasser. Et quand ils rentrent, les chasseurs, ils voient celui des trois qui était resté, écrasé dans un coin, il a pris des coups durs, il a pris des coups, il vaut plus rien, quoi. Bon, pareil le lendemain, et le troisième jour, c'est Jean de l'Ours qui est chargé de faire la nourriture pour les deux autres. Et il voit, à un moment, d'une cavité qu'il n'avait pas repérée jusque-là, un petit être qui sort, ça peut être un génie, ça peut être une sorcière, ça peut être différentes choses. Et ce petit être vient immédiatement le provoquer. Jean de l'Ours répond très tacitement, hein, En gros, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et c'est le petit être qui avait abîmé les deux compagnons. Et donc, il essaye de se prendre pareil à Jean de l'Ours. Jean de l'Ours lui rend l'appareil et décide de le suivre. Et là, on arrive à un des éléments pour moi fondamentaux du récit. Jean de l'Ours va descendre dans le monde inférieur. Il descend. Il y a 36 variantes, 36 versions sur le fait qu'il descende. Il descend et il arrive en bas, dans un monde qui est donc souterrain. Ce monde n'est jamais qualifié d'enfer. Hein, c'est donc pas du tout des versions qui ont subi une influence chrétienne. Il n'est jamais qualifié d'enfer, mais c'est un monde inférieur. Et pour moi, on a évidemment là un des traits fondamentaux structuraux du conte. Hein, c'est un conte où il y a disjonction. Disjonction, le héros passe de la surface du sol à un monde inférieur. Bon, là, je termine aussi assez rapidement. Là, il y a un dragon. Ce dragon garde des princesses dans une pièce à côté. On se demande ce qu'il avait à manger dans le monde inférieur. Enfin bon, voilà, ça se passe comme ça. Donc, il tue le dragon, il délivre les princesses. Et là, il y a une petite fantaisie qu'on retrouve dans d'autres contes. Mais vraiment, enfin, bon, elle est là. Il fait remonter par une corde, par tout ce qu'on veut, les princesses pour ses compagnons. Et quand la dernière princesse est montée en haut, les compagnons coupent la corde. C'est-à-dire qu'ils obligent Jean de l'Ours à rester éternellement dans le monde inférieur. Bon, Jean de l'Ours chemine dans le monde inférieur, et puis il rencontre, c'est toujours dans les versions françaises, il rencontre finalement un aigle. Cet aigle est d'accord pour le reporter en hauteur. Donc, et puis alors l'aigle lui dit, c'est tellement haut qu'il me faudra manger. Donc, Jean de l'Ours trouve le moyen, on emporte sur l'aigle des moutons, des bœufs, tout ce qu'on veut, voilà. L'aigle s'envole avec Jean de l'Ours dessus et les victuailles. En cours de route, Jean de l'Ours nourrit l'aigle pour lui donner des forces. Et puis, arrivé presque à la surface, il n'y a plus à manger et l'aigle commence à faiblir. Donc, Jean de l'Ours, là c'est encore un truc très caractéristique, Jean de l'Ours se coupe un morceau de la cuisse ou un morceau du mollet pour nourrir l'aigle. Et l'aigle arrive à la surface, à la surface de la Terre. Donc la disjonction initiale est abolie à ce moment-là. Il y a toujours un motif assez rigolo. Jean de l'Ours avait eu l'intelligence de couper les langues du dragon. De sorte qu'il retourne chez le roi, où il y a un roi qui apparaît à son âge. Oui, ben, il faut bien un père des princesses. Hein. Bon, donc il y a un roi qui apparaît. Donc il va chez le roi. Il arrive au moment où le mariage entre ses ex-compagnons et les princesses qu'il avait fait remonter va être célébré. Il va voir le roi et il dit, c'est moi qui ai tué le dragon. Mais non, c'est pas toi, on sait que c'est les deux fiancés là. Non, c'est moi. Et il sort les langues du dragon. Vérification est faite, c'est lui qui a tué le dragon. Et donc, il épouse, on est en France, pays monogame, il épouse une des princesses. Il n'épouse pas les trois. Dans des versions d'autres pays, il peut épouser les trois. Voilà. Voilà. Ça, c'est le thème Jean de l'Ours classique et résumé. Ça va? Bon, alors, ce conte de Jean de l'Ours, et c'est un des plus répandus qui soit. Les versions de Jean de l'Ours commencent en Europe occidentale et vont jusqu'en Indonésie en comprenant à peu près toute l'Asie. D'accord ? Donc un conte extrêmement répandu. Mais cette expansion se fait avec des variantes extraordinaires. La principale que je vais signaler, quoi, ce n'est pas la principale, mais c'est une variante significative que je dois signaler tout de suite. Il n'est Jean de l'Ours, donc il s'appelle d'un nom qui contient l'ours, qu'en France, dans la péninsule ibérique, les îles britanniques et une partie de l'Allemagne. Ailleurs, il n'est pas du tout, il n'y a pas du tout l'ours. il n'y a pas de femme enlevée par un ours. Il y a toutes sortes d'ouvertures, toutes sortes de motifs hein, qui diffèrent énormément. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je vais montrer tout de suite une divergence qui est intéressante. Il y a beaucoup de versions chinoises. Ces versions chinoises se fondent pour trouver une solution à la situation inférieure des gens de l'ours, se fondent sur des thèmes mythologiques chinois. D'accord ? Dans la mythologie chinoise traditionnelle, hein, il n'y a pas du tout ce qu'enseigne le Parti communiste chinois à ses citoyens. Des dragons sont sous terre en hiver et au printemps, ils sortent de terre, ils s'élèvent et ils forment les nuages de printemps. D'accord ? Donc, ces dragons, on attend d'eux qu'ils procurent la pluie. Le genre de l'ours chinois, souvent, pas toujours, mais souvent, pour sortir du monde inférieur, eh bien, il se met sur un dragon. Un des dragons en question. C'est-à-dire que le dragon va sortir de terre, passer un instant à la surface, puis partir au ciel. Jean de l'Ours monte sur le dragon et saute à terre quand il est arrivé au niveau de la terre. D'accord ? Il est intéressant, sans plus, il est intéressant qu'en Occident, le héros Jean de l'Ours tue un dragon, des fois plus, des fois trois dragons, alors qu'en Chine, c'est exactement l'inverse. Le dragon n'est pas du tout un adversaire, c'est un allié. Vous me suivez ? Mmh. Voilà, c'est le genre de fantaisie qu'on observe. Ah oui, je dois vous dire que je travaille beaucoup en mythologie comparée. Hein, y a pas, y a... Non, c'est autre chose. Ouais. Bon, il y en a d'autres. Ouais. Bon, je travaille beaucoup en mythologie comparée. C'est-à-dire que mon propre domaine n'est pas le conte, sauf là, mais mon domaine, c'est la mythologie comparée. Et je vous en donner des exemples tout de suite. Hein. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, dans le conte de Jean de l'Ours appartient à la catégorie de ce qu'on appelle les contes merveilleux. Hein. C'est sur, le type même du conte merveilleux que Vladimir Propp a fait ses bouquins, heureusement traduits en français, et entre autres, le petit bouquin qui s'appelle, Structure du conte, quelque chose comme ça. Il a développé donc l'idée que tous les contes merveilleux correspondaient à un même schéma. Il y a donc un héros, un adversaire. Il y a souvent le héros a des auxiliaires, donc la fonction d'auxiliaire, un auxiliaire qui va lui fournir l'arme, qui va, etc. Voilà, et puis voilà, bon, je ne vais pas vous les propres maintenant, mais en tout cas, c'est intéressant que ces contes merveilleux correspondent à un type donné. Or, quand on est dans le mythe, c'est ça, j'y insiste, dans le mythe, dans l'univers du mythe, cette analyse de Propp n'est plus du tout pertinente, plus du tout, parce que les mythes partent dans tous les sens. Il n'y a plus du tout un nombre déterminé de fonctions, un nombre déterminé de rôles, etc. Je le dis d'autant plus, et j'y insiste d'autant plus, que j'ai encore lu récemment, de la part d'un helléniste, il proteste contre Propp, ça ne marche pas. Bien sûr, ça ne marche pas. Propp n'a pas fait ça pour la mythologie grecque. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, de l'art et de la matière, de la manière de se planter. Voilà. Alors, je vais vous parler de mythologie comparée. Un des phénomènes intéressants sur Jean de l'Ours, c'est que j'ai lu dans des bouquins parlant de mythologie caucasienne une histoire géorgienne extrêmement intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette culture-là, ce ne sont pas des contes exactement, ce ne sont pas des contes récités, ce sont des ballades, c'est-à-dire quasiment chantées. Hein. Donc, des ballades racontent tel épisode de la vie d'un héros qui s'appelle Amirani. Voilà, une balade va raconter ça, une autre balade va raconter ça, etc. Et si on les met bout à bout, ce qui a été fait, évidemment, on arrive à toute une histoire extrêmement intéressante. Autrement dit, ça, la culture géorgienne avait tout ce matériel. Quand un conteur ou un quelqu'un qui chante, un chanteur, en chantait une ballade, les gens connaissaient implicitement le reste. Donc la ballade, même s'il ne raconte qu'un épisode, ça renvoie à tous les autres. Voyez-vous, ça marche comme ça. Hein. Bon, et alors donc, le héros s'appelle Amirani. Et il a beaucoup d'aventures. Il n'a pas du tout une seule aventure qui rappelle Jean de l'Ours. Mais il a une de ses aventures s'intègre dans le dossier Jean de l'Ours. Alors, je vous raconte, c'est tout à fait différent de ce que j'ai raconté auparavant. Il avait deux compagnons, qui s'appellent Badri et Hussif. Et ces deux compagnons étaient des combattants, comme lui, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins forts que lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins forts. Il rencontre un jour un dragon au bord de la mer Noire. Amirani tue le dragon. Aussitôt, le dragon se démultiplie et donne naissance à trois dragons, chacun d'une couleur différente. Puisqu'ils sont trois héros, ils sont trois à trois attaquer les trois dragons. Badri et Hussif sont tués par leurs dragons respectifs. Amirani tue le dragon qui était en face de lui, s'attaque aux deux autres, il en tue un, mais le troisième le mange, l'avale. Et une fois qu'il a avalé Amirani, il saute au fond de la mer Noire. Donc voilà, la disjonction entre surface de la Terre et profondeur se fait de cette manière. C'est le dragon qui fait un saut, encore inversion par rapport à la Chine, où le dragon aide à sortir le dragon, inversion par rapport au mythe français, où c'est un dragon qui est un adversaire souterrain. Ça va tout ça? Ok. Et ce dragon qui est sous terre, sous la mer Noire, Amirani est dedans. Donc il pense à sortir. Et il avait conservé avec lui son épée. Donc il taille une sorte de fenêtre dans le côté du dragon et il peut sortir et regagner la surface sans problème. Depuis, nous dit le récit, depuis, c'est par cette fenêtre que tous les matins passe le soleil. Autrement dit, on n'est plus exactement dans le conte tel qu'il est raconté en France. On est dans un mythe cosmogonique. Vous suivez ? Voilà, c'est très intéressant ces connexions entre conte et mythe. Hein. Un conte, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un conte, mais il y a des rapports. Voilà. Et par ailleurs, ce même Amirani, il avait des rapports étroits avec un personnage du légendaire breton. Voilà, il faut que je vous redire. On a mis sur la table ce livre-là, Jean de l'Ours, Gargantua et le dénicheur d'oiseaux. Là, je vais introduire Gargantua. D'accord ? Qu'est-ce que Gargantua vient faire dans cette histoire ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Voilà. Amirani est d'abord un massacreur. Et un massacreur au sens large. À la fin de sa vie, si on peut parler comme ça, il n'y avait plus un seul animal sauvage, ils avaient tous massacré. Il n'y avait plus un seul arbre, ils avaient tous coupé. Bon, finalement, il entre en conflit avec Dieu. Évidemment, quand un personnage est en conflit avec Dieu, ben, il ne risque pas beaucoup de gagner. Et Amirani, donc, finalement, est capturé par Dieu, disons. Et, alors là, c'est intéressant, Dieu l'enferme dans une cavité souterraine. Et il met avec lui un chien noir, un chien ailé et noir, Kourcha. Kourcha veut dire en géorgien chien noir. Voilà, il met donc ce chien noir avec lui, et depuis, Amirani est dedans, avec son chien noir. Il est enchaîné. Le chien noir, le chien, laisse continuellement sa chaîne. Et il est sur le point tous les ans de la rompre, donc de libérer Amirani, quand tous les forgerons du Caucase, ou du moins du Caucase occidental, hein, tous les forgerons du Caucase donnent un formidable coup de massue sur le... De marteau, sur leur enclume, et ce formidable coup de marteau resserre, recomplète la chaîne d'Amirani que le chien avait commencé à couper. Oui, on est dans un rôle de contexte, d'accord ? Voilà, et c'est donc les motifs de la mort d'Amirani. Et Amirani, je dis, c'est un géant extrêmement grand. On va maintenant en Bretagne occidentale, Finistère. Il y a là un héros qui s'appelle Ocbras. Ocbras. Oc est certainement un emprunt d'ancienne épopée française où il y avait le prénom Hugues. Hugues était prononcé Hugues, et donc ça a donné Oc. Ashoka. Bras, ça veut dire grand. Donc, ça veut dire tel seulement le grand Hugues. Bon. Voilà, ce guerrier, comme Bras, a fait aussi toute une série d'actions, comme Amirani, pas exactement les mêmes, mais ce qui m'intéresse, c'est sa mort. Bras avait entre autres fait la rade de Brest. C'est un géant aussi énorme, hein. Il avait fait la rade de Brest et il avait fait ce qu'on appelle les monts d'Arrée, c'est-à-dire la principale chaîne de montagnes qui va du centre de la Bretagne à la Bretagne occidentale. Il avait donc bâti des montagnes, bâti une baie maritime. Un jour, il veut voir. Il va donc dans la rade de Brest et il boit un coup dans la mer. Hélas, il a avalé en même temps un bateau. Il se sent quelque chose de lourd dans le ventre. Il repart vers l'est, vers les monts d'Arrée, justement, qui ne sont pas très loin. Il bute sur les montagnes qu'il avait lui-même construites. Il bute dedans, il s'effondre, sa tête heurte une pierre et il meurt. Il avait une marraine qui est intéressante, puisque le débat ici, c'est sur les sexes dans les contes. Hein? Donc, il avait une marraine qui lui avait pas mal dit ce qu'il fallait faire, etc. Sa marraine voit que Ocbras est mort, incontinent, elle se change en chienne noire, et depuis, cette chienne noire erre sur la zone où Ocbras a été enterré. D'accord ? Donc, dans les deux cas, géorgien et breton, il y a un géant, un colossal géant. Du côté géant, Amirani a plutôt été destructeur, d'un géant qui massacre. Ocbras est plutôt un géant constructeur, mais dans les deux cas, il meurt et ils sont accompagnés dans la mort par un chien noir et protecteur. La marraine, dans le cas d'Ocbras, se change en chien noir pour le protéger, pour veiller sur sa tombe. Courchat est un chien qui, on lui dit, passe son temps à essayer de libérer de ses chaînes. Voilà, donc tout ça, c'est tout à fait intéressant. Des petites rencontres comme ça, c'est tout à fait intéressant. Bon, et comment j'arrive à Gargantua ? Eh bien, d'abord, c'est un peu compliqué, je vais vous dire ça. Ocbras a des côtés de Gargantua, c'est-à-dire que... J'en reviens tout de suite à Gargantua, c'est beaucoup mieux. Parenthèse Gargantua. Hein. Sur Gargantua, nous avons trois sources, trois types de sources, et pas une seule. Hein. Nous avons d'une part l'œuvre de Rabelais, c'est une source. Nous avons d'autre part ce qu'on appelle les chroniques gargantuines, c'est-à-dire des textes faits par des auteurs dont on n'a pas les noms, donc on les appelle chroniques gargantuines parce qu'on ne peut pas dire c'est un tel qui a fait l'écrit. Et ce qui est très rigolo, c'est que la première chronique gargantuine paraît à Lyon en 1532. Le premier livre de Rabelais est édité à Lyon en 1532. Autrement dit, Lyon en 1532 ne devait pas être une bien grande ville. Autrement dit, l'auteur de la première chronique gargantuine et Rabelais étaient certainement des gens en relation. Peut-être même que c'était des copains. D'accord ? Vous me suivez ? Bon, et puis alors la troisième source, c'est quoi la troisième source ? Vous la connaissez toutes. Tous et toutes. C'est la tradition populaire.
Oui.
La tradition populaire. Dans toute la France, on a recueilli au 19e siècle, au 20e siècle, on a recueilli des traditions sur Gargantua. Dans toute la France. Dans toute la France francophone. Et c'est là que c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais faire la parenthèse maintenant. Dans toute la partie francophone de la France, on a des traditions sur Gargantua. Partout, Gargantua est un individu qui passe, il passe, il va d'un endroit à un autre, il est passé dans le village, et depuis qu'il est passé dans le village, il a pissé, et ça a fait la rivière qui passe dans le village. Il a retiré des cailloux de sa chaussure, ça a fait la montagne à côté du village, etc., etc. Dans toute la France, vous avez ça, toute la France. Et ce toute la France-là s'arrête aux zones aux zones non francophones. Donc, j'en reviens à la Bretagne. La Bretagne, au XIXe siècle, la Basse-Bretagne, le Finistère, etc., parlait breton. Ils ne parlaient pas français. Maintenant, ils parlent tous français, tous. Le dernier breton qui ne parlait que breton est mort il y a une dizaine d'années. Donc, tous les bretons parlent français. Mais au XIXe siècle, sûrement pas. Donc, toute cette zone de Basse-Bretagne, on y parlait breton. Et donc, les cahiers, vous savez ce qu'on appelle la bibliothèque bleue ? Oui ? Oui ? Bon, voilà. Donc, il est certain que le nom Gargantua s'est répandu en France grâce à la bibliothèque bleue, grâce aux petits bouquins transportés par les colporteurs dans tous les coins de France. Et là, donc, les gens, s'ils avaient la tradition d'un géant, et ben hop, ça y est, ils avaient trouvé un nom, ils l'appelaient Gargantua. Ça s'arrêtait en Bretagne, puisque les colporteurs n'avaient pas de petits bouquins en breton. Et voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on a conservé, dans cette partie bretonnante de la Bretagne, le nom d'un certain nombre de géants, je donne Ogbras, mais il y en a d'autres, hein, qui n'ont pas été gargantualisés. Ça marche ? Voilà. C'est comme ça qu'on rejoint Gargantua. Et je vois tout de suite un autre point commun entre Gargantua et Amirani, outre que c'est des géants extraordinaires, bien sûr, énormes. Bon, je vous disais tout à l'heure que Amirani avait éliminé tous les animaux, éliminé tous les arbres. Il se trouve que dans les chroniques gargantuines, donc ces écrits du XVIe siècle, il y a cinq ou six, tous du XVIe siècle, anonymes, hein, dans ces récits des chroniques gargantuines, il se trouve que Gargantua est largement un destructeur, comme Amirani. Par exemple, il s'était mis au service, il était passé en Angleterre, il s'était mis au service du roi Arthur. Mais après, il combat pour le roi Arthur, mais il faut le nourrir. Donc, on tue tous les loups de Grande-Bretagne pour lui faire un repas. On tue tous les cerfs de Grande-Bretagne pour lui faire un autre repas. Pendant ce temps-là, lui, il travaille pour le roi Arthur. Donc, il massacre les Hollandois. Il massacre les Anglais. Voilà. Donc, on a dans cette chronique gargantuine, et pas dans Rabelais, pas dans la tradition populaire, on a un Gargantua massacreur. massacreur, éliminateur de tout ce qui n'est pas lui. Ça va ? Mm-hmm. Voilà. Donc, c'était un petit peu ce que j'ai raconté dans tout ça. Bon, après, j'ai fait d'autres élargissements. Ouais, on a le temps de parler de ça, oui. Alors.
Prenez votre temps. Prenez votre temps.
OK. Alors, il se trouve que Lévi-Strauss, vous connaissez Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, pas les Bougines. Le grand penseur, le sociologue et philosophe Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss a écrit des bouquins aussi de mythologie comparée, mais de son style à lui. Et dans un de ses bouquins, il fait la remarque suivante. Le conte de Jean de l'Ours inverse le récit du dénicheur d'oiseaux. Ça va ? Le conte de Jean de l'Ours inverse le récit du dénicheur d'oiseaux. Alors, le dénicheur d'oiseaux, il est dans le titre ici, hein ? Et le dénicheur d'oiseaux, parce que une fois qu'il avait dit ça, ça valait le coup d'aller voir. Alors, je vous raconte maintenant le mythe du dénicheur d'oiseaux. Hein ? C'est un mythe recueilli d'abord en Amérique du Sud, chez un certain nombre de peuples, disons, du sud du Brésil, et qui raconte la chose suivante. Un père, dans un certain cas, un beau-frère, dans un autre cas, veut se débarrasser d'un personnage. Le père qui veut se débarrasser de son fils, bah, c'est tout simplement parce qu'il pense que son fils a accouché avec sa mère. Quand c'est le beau-frère, il y a moins de problèmes, les beaux-frères sont généralement des ennemis. Voilà, et donc le héros le plus âgé va essayer de se débarrasser du plus jeune en lui disant d'aller dénicher des oiseaux qui sont en altitude. Alors, dans le premier mythe, celui où c'est un père qui envoie son fils, les oiseaux ont fait leur nid dans une sorte de creux dans une falaise. Le père met une échelle, sauf que ce n'était pas une échelle, c'était pas une échelle comme nous en faisons maintenant. C'est une sorte de bout de bois avec des aspérités qui permettaient qu'on grimpe. Voilà. Le garçon grimpe à cette échelle pour essayer d'attraper le lit. Et quand il est en haut, le père retire l'échelle. Il y a là aussi disjonction, mais la disjonction, au lieu d'aller en profondeur, comme dans le cas de Jean de l'Ours, elle va en altitude. Et dans les deux cas, il y a impossibilité pour le héros d'échapper à la disjonction. Je vous disais, pour Jean de l'Ours, ses compagnons ont coupé la corde par laquelle il était descendu. Ici, le père retire l'échelle par laquelle le héros est monté. Ça va ? Bon, ça c'est une version, c'est en espèce. C'est la version d'un peuple qui s'appelle les Bororos. Juste à côté, des peuples qui ne parlent pas la même langue qu'eux, d'une autre culture, disons, racontent que c'est un beau-frère qui a envoyé un jeune homme chercher des oiseaux. Là, c'est plutôt dans des arbres que ça se fait, plutôt que sur une falaise. Mais c'est le même principe, on l'aide à monter, puis après, on lui retire le moyen par lequel il est monté. Bon. Il y a ensuite quantité de motifs extrêmement intéressants, évidemment ce que j'ai raconté là-dedans. Bon, par exemple, je reviens au mythe Bororo, comment il va s'en sortir ? Alors d'abord, une fois qu'il est en haut, là, il arrive à grimper et il arrive au sommet. Il y en a beaucoup en Amérique du Sud, c'est des sortes de roches, de blocs rocheux qui ont un sommet plat. Hein, il y en a beaucoup. Si vous avez lu Le Monde perdu de Conan Doyle, ça se passe sur un truc comme ça, hein, dans le nord de l'Amérique du Sud. Voilà. Donc, il arrive sur ce sommet et là, il se fait un arc pour chasser. Il chasse des lézards. Ce sont les seuls animaux qu'il trouve sur ce sommet. Oui, bon, et puis une fois il s'est endormi, et des vautours viennent lui manger le postérieur. À ce moment-là, je crois qu'il attrape les vautours, les pattes des vautours, et il arrive à se faire descendre par eux. Ce que faisant, le héros Bourreau fait une chose qui s'est faite beaucoup dans la mythologie, mais aussi dans le rite. Aux alentours de 1954, Lévi-Strauss a fait son cours de l'année sur le thème suivant, la chasse aux aigles chez les Hidassas. Alors, comment se passait la chasse aux aigles chez les Hidassas? Les Hidassas sont un peuple Sioux, de langue Sioux, des États-Unis, du centre des États-Unis, du Missouri, hein, la région du Missouri. Alors, un jeune Hidassa qui voulait capturer un aigle commence par faire une chasse à autre chose qu'un aigle. Il tue un lapin, une chose comme ça. D'accord ? Ensuite, il se couvre du sang de l'animal chassé, il couvre ses mains de sang, il met la charogne devant lui, il se fait une fosse, il met la charogne devant lui et il attend. Il attend en général pas très longtemps, quelques heures. Et un aigle arrive pour s'emparer de la charogne. Et là, lui, il doit être plus rapide que l'aigle. C'est-à-dire que l'aigle est là sur la charogne, et lui, le jeune, il a ça. De sa fosse, il doit attraper les pattes de l'aigle. Comme ça. Et il le tient comme ça. Et il l'emmène au village. Il a gagné. C'est la chasse aux aigles chez les Hidassa. Autrement dit, ce que fait l'exploit qu'accomplit à 15 000 km de là le héros Bourreau est un acte, je vous dis, fréquent dans la mythologie. Je connais plusieurs exemples dans la mythologie grecque. Mais c'est un acte rituel. C'est un acte réellement réalisé par un personnage, par les Hidassa. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai encore du temps ?
Oui. On profite de votre présence, vous n'êtes pas souvent ici.
C'est sûr, mais je suis très content d'y être. Hein. Je suis très content d'être venu à l'Est, plutôt que de l'avoir fait en visio conférence. Oui. C'est assez frustrant. Bon. Ce que je voudrais vous dire encore, un truc marrant sur ces retours. Dans les vers, le mythe du dénicheur d'oiseau est connu donc dans une certaine partie de l'Amérique du Sud. Et il est connu aussi dans une partie de l'Amérique du Nord. Il correspond en gros à la moitié occidentale de l'Amérique du Nord, les montagnes rocheuses, etc. D'accord ? Mais là, les versions du nicheur d'oiseaux dans cette région-là du monde sont très différentes de l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ça se passe pratiquement dans un monde humain. Hein. Le gars est perché sur une falaise, il est perché sur un arbre, ça se passe entre terriens, on pourrait dire. Dans les versions de l'Amérique du Nord, ça part tout à fait ailleurs. Et entre autres, il est arrivé dans une version que le héros isolé en haut d'une montagne, la montagne se met à pousser en hauteur pour augmenter la disjonction, pour pousser plus loin la disjonction. Ah oui, et moyennant quoi, le héros qui subit tout ça arrive au sommet, c'est-à-dire au ciel. D'accord ? Il se met à marcher au ciel. C'est possible en pays Sioux, en pays d'Amérique du Nord, hein, c'est possible. Voilà, il se met à marcher au ciel. Et ce qui m'intéresse beaucoup, et que j'ai raconté évidemment là-dedans, c'est que il fait des rencontres. Par exemple, il rencontre deux femmes. Qui ne sont pas très sympas avec lui. Alors, il les attrape chacune par le cou, il les projette, et elles se transforment en tétras. En tétras, coq de bruyère. En tétras, tétéra. Il y a le grand tétras, il y a le petit tétras. Donc, elles sont transformées en coq de bruyère. Ils continuent à se promener, et il rencontre des gens, des femmes aussi, beaucoup, mais celle-là beaucoup plus aimable, qui lui procure des renseignements pour descendre, pour redescendre sur Terre, qui peuvent lui fournir des objets pour les descendre sur Terre. Voilà. Et donc, il va pouvoir descendre. Ah bon. Ouais, je pense que ce sont les détails. Or, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ces deux rencontres successives entre des femmes négatives et des femmes tout à fait positives, qui vont le sauver, c'est qu'on a exactement la même chose en Grèce ancienne dans l'aventure d'un bonhomme qui s'appelle Persée. D'accord ? Persée part d'une île de la mer Égée et il va aller vers l'ouest pour aller chercher la tête de la Gorgone. Quels sont les premiers êtres qu'il rencontre ? Hein ? Les Grées ? Très bien, les Grées. Et comment elles sont, les Grées ? Et, mais encore. Oui, non, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elles ont un corps d'oiseau. Elles ont une tête humaine et un corps d'oiseau. D'accord ? Vous avez raison, elles s'échangent un seul œil. Hein, et on trouve ça aussi en Amérique du Nord. Bon, elles ont un corps d'oiseau. Autrement dit, dans le mythe de Persée, j'ai deux femmes à moitié oiseau, enfin, à tête humaine et corps d'oiseau. Dans le mythe d'Amérique du Nord, j'ai deux femmes humaines transformées en oiseaux. Ça marche ? Étape suivante de Persée, il rencontre les nymphes. Et les nymphes, ce sont celles qui vont lui indiquer où est la Gorgone, parce qu'il ne savait pas en partant. Hein. Et elle lui donne un sac pour mettre la tête, un miroir pour le mettre devant les yeux de la Gorgone, etc. Donc, elles fournissent à Persée ses... Bon, elles fournissent à Persée les outils, les moyens d'agir. D'accord ? Voilà. Donc, on est là en Amérique, en Grèce ancienne, et on a un héros qui accomplit, qui fait les mêmes rencontres, avec les variantes locales, évidemment, que le héros dénicheur d'oiseaux en Amérique du Nord. Alors, c'est pour ça que le bouquin, il est gros. Hein, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Parce que dans ce bouquin-là, j'envisage évidemment toutes les versions du dénicheur d'oiseaux d'Amérique du Sud, puis d'Amérique du Nord. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Parce que, alors donc, je vais dire aussi un truc important. Dans l'œuvre de Lévi-Strauss, ce qu'il a introduit au cours de ses... Il a fait quatre tomes qui s'appellent les mythologies. Ce qu'il a introduit au cours de ces quatre tomes, c'est entre autres la notion d'inversion. Que deux mythes voisins se différencient par une inversion. On le voyait à l'instant dans le mythe du nicheur d'oiseaux en Amérique du Sud. Hein, chez les Bororos, c'est le père, le propre père, qui envoie son fils en altitude. Chez les peuples d'à côté, ce sont des beaux-frères. C'est tout à fait différent. Les beaux-frères, je vous le disais, c'est toujours potentiellement des ennemis. Tout à fait différent. Être un beau-père qui envoie son gendre, c'est une chose. Être un père qui envoie son fils, c'est une toute autre chose. Il y a donc inversion. On dit en sociologie, là, c'est côté... non, c'est pas que je mélange. Côté Moreau, c'est de la filiation. Côté... les autres peuples, là, c'est de l'alliance. D'accord ? Voilà. Et voilà le type d'inversion. Ce que je vous ai dit tout à fait au début sur le dragon chinois qui sauve le héros en le faisant sortir du monde inférieur, alors que ici, le dragon, c'est l'adversaire que Jean de Lourdes rencontre sous terre, c'est aussi une inversion. D'accord ? Et ce que je vous ai dit, le passage... de la disjonction vers le bas à la disjonction vers le haut, hein, c'est aussi une inversion. D'accord ? Cette notion introduite par Lévi-Strauss est d'une fertilité colossale. J'en ai moi-même fait beaucoup, beaucoup de travaux qui se fondent sur ça. Beaucoup, 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 beaucoup. Hein, des fois, ça donne la solution tout à fait à des comparaisons mythique. Voilà, un exemple. Voilà, on sort de... Lévi-Strauss, pas Lévi-Strauss, Dumézil, vous connaissez Dumézil, Georges Dumézil. Georges Dumézil avait fait une comparaison entre la première guerre du monde chez les Scandinaves et chez les Romains. Il a... Alors, c'est intéressant. Dumézil est contemporain de Lévi-Strauss, mais il n'était pas du tout Lévi-Straussien. Il s'en méfiait. Il adorait Lévi-Strauss, il l'a soutenu, etc. Mais n'empêche que le structuralisme de Lévi-Strauss, ça ne lui allait pas du tout. Donc, il ne l'a pas, n'a pas intégré ce qu'avait dit Lévi-Strauss. Je suis après Dumézil et après Lévi-Strauss, je pouvais, moi, le faire. Voilà. Donc, Dumézil avait beaucoup étudié ces deux motifs de guerre et il y avait un os qui ne collait pas, ça ne se déroulait pas dans le même ordre, en quelque sorte, hein, ça n'allait pas. Et donc, il est revenu plusieurs fois, 4 ou 5 fois dans sa carrière, Dumézil est revenu sur cette guerre pour essayer de la serrer davantage, pour voir comment ça se passait, et puis il n'y arrivait pas. Bon, j'arrive avec mon petit Lévi-Strauss là, donc j'écris un article et je montre tout simplement que le problème se résout de la manière la plus simple en basculant les récits. Voilà. Si on les compare comme ça, il y a un os, ça coince. Si on les met comme ça, tout est résolu. OK ? Ça marche comme ça. C'est ça l'intérêt de la version introduite par Lévi-Strauss. OK ? Bon, qu'est-ce que je peux dire encore ?
Quand vous dites que ça serait doux, en fait, ça veut dire que les mythes communs qui ont une origine commune.
Ah oui,
ça,
dans le cas de Dumézil, oui.
D'accord, et à chaque fois, quand, même avant, quand on parle d'inversion, sur le mythe de Jean de l'Ours, le conte de Jean de l'Ours, le mythe du dénicheur d'oiseaux, c'est que en fait, cette étude comparée, elle suppose ou sous-entend qu'il y a une origine commune. Est-ce que c'est ça
Exactement. Dans le cas de Dumézil, ça renvoie à du comparatisme indo-européen. C'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur de la famille linguistique indo-européenne. D'accord ? Quand c'est de type Lévi-Straussien, ce qui est ce bouquin-là, c'est le type Lévi-Straussien, ça se moque complètement de la famille linguistique, ça transcende les différences linguistiques et ça se fait à une échelle beaucoup plus grande. Alors, pour Lévi-Strauss, c'est une question de structure. Moi, je vais plus loin en un sens. La structure, pour moi, éclaire une histoire. C'est-à-dire que il y a eu réellement, à un moment de l'histoire de l'humanité, des gens, alors soit l'unisson d'oiseau est premier avec sa disjonction vers le haut, et dans ce cas-là, ça a été inversé un jour pour faire la disjonction vers le bas, ou l'inverse. Il y avait d'abord la disjonction vers le bas, Jean de l'Ours, et quelque part, on a créé la disjonction vers le haut. Voilà.
Je ne comprends pas quand vous dites ça éclaire l'histoire.
Oui, pour moi, c'est l'histoire, c'est même la préhistoire.
D'accord. Ce serait une manière de raconter l'histoire.
Non, pas du tout. Non. Lévi-Strauss, a priori, ne voit qu'une structure. Il met tout en synchronie, sans histoire, sans différenciation chronologique, il met tout en synchronie et il voit des structures qui changent. Personnellement, d'abord, je suis historien de formation, c'est un peu comme ça. Et donc, moi, je vois d'abord de l'histoire. Et je pense qu'il y a eu un jour, effectivement, quelqu'un, un X, un inconnu, qui a opéré l'inversion entre le haut et le bas. D'accord ? Postérieurement à Lévi-Strauss, on a découvert des versions du dénicheur d'oiseaux en Sibérie. Là aussi, Lévi-Strauss, quand il étudie ça dans le cadre des mythologies amérindiennes, évidemment. Hein. Il a découvert donc le dénicheur d'oiseaux en Amérique du Sud, il l'a découvert en Amérique du Nord, ça s'arrête là. Postérieurement à lui, des savants russes, ou qui lisaient le russe, hein, ont trouvé des indimichants d'oiseaux en Sibérie. Voilà.
Quelqu'un nous dit, on retrouve des indimichants d'oiseaux dans le Tangatamanu de l'île de Pâques.
Dans le?
Le Tangatamanu à l'île de Pâques.
Qu'est-ce que c'est le Tangatamanu?
C'est la personne qui a écrit. Voilà, ça doit être un Tangatamanu. Pourrait que je lui demande.
Qui est-ce qui a écrit ça?
Matteo Bolo.
Très bien, je ne connais pas. J'ai, dans ce livre-là, j'ai mentionné des choses qui rappellent le dîner chant d'oiseau en Indonésie, en pays maori. Hein. Mais bon, peut-être qu'il y a des trucs à l'île de Pâques. Hein.
Ça m'étonne un peu. Peut-être donner une précision sur le temps.
Oui, des nicheurs d'oiseaux aussi, Daniel Faure, vous l'avez abordé en tant qu'espace initiatique en Occitan. Comme partout dans
on revient au thème de votre colloque.
Oui, hein, tout à fait. Ouais.
Alors donc, si on revient au thème du colloque, là, le thème du colloque, je ne dis pas les gens, c'est un américanisme, je dis donc les seps dans les contes. Voilà. Si on regarde les femmes, dans le mythe d'Amirani que j'ai raconté, zéro. Il n'est pas mentionné une seule femme. Dans d'autres ballades d'Amirani, on raconte qu'il a eu une fiancée chez les Kadzi. Et les Kadzi, ce sont les forgerons. Mais les forgerons mythifiés, qui sont des ennemis. Il a donc eu une fiancée chez les Kadzi. Cette fiancée apparaît dans une ballade, elle n'apparaît plus jamais dans aucune. Voilà, donc... les femmes sont pratiquement absentes de la légende d'Amirani. Dans la légende de Jean de l'Ours, elles apparaissent, certes, mais dans un rôle entièrement passif. Entièrement passif. La mère de Jean de l'Ours se fait enlever par un ours, enfermée dans une caverne, un point c'est tout. Elle n'a aucune action positive. Les princesses que Jean de l'Ours trouve sous terre, elles sont là à la disposition du premier qui les prendra. Hein? Elles n'ont aucun rôle positif, aucun. Même dans le mariage, elles ne jouent aucun rôle. L'affaire au mariage se joue entre Jean de l'Ours et ses anciens compagnons. Hein? Voilà, c'est seulement du côté de Ogbras, dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a une femme qui joue un rôle positif. On va revenir là-dessus. Ogbras étant un jeune homme, il avait une marraine qui s'occupait de lui. Et ne tarde pas, étant jeune homme, à tomber amoureux de sa marraine. Et sa marraine... OK. Alors elle lui dit... écoute, je vais te faire. Tu vas faire un certain nombre d'épreuves. Elle dit pas ça, mais enfin, tu vas faire un certain nombre d'épreuves. Hein. Elle dit pas épreuves, enfin, ça revient à ça. Et on verra après. Voilà. Donc, elle lui impose des épreuves. Et alors, par exemple, il y a une question que je pense que vous ne connaissez pas énormément la Bretagne.
Hein? Il y a des Bretons dans la salle.
Il y a des Bretons dans la salle. Bon. Bon, alors, vous connaissez Huelvoat? Oui. À Huelvoat, il y a un chaos. Un chaos rocheux. Voilà. Eh bien, on y est. C'est là que ça se passe. Alors, donc, une fois, Ogbras était avec sa marraine, sur ce chaos, se promenait dans ce chaos rocheux. Et sa marraine jouait avec sa bague. Et la bague tombe au fond. C'est ça. Va le chercher. C'est ça. Alors, en ce temps-là, Ogbras n'était pas encore spécialement un géant. Mais quand il s'agit d'aller chercher la bague de sa marraine tombée au fond du chaos de Huelvoat, il se transforme en un géant filiforme, hein, et il allonge ses jambes et ses pieds qui vont jusqu'au fond du chaos, et là, il sent qu'il y a une anguille. Une anguille, une carotte, une voilà. Bon, alors, il sent qu'il y a une anguille et avec ses pieds, il combat l'anguille et il parvient à la remonter. Or, elle avait avalé la bague. Donc, il récupère la bague. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est bien. Oh, bah, bien sûr que c'est bien. Oh, bah oui. Ça, c'est la première épreuve, disons. Dans la seconde, ils sont sur la terre ferme, ils sont en Finistère. Alors, je ne sais plus dans l'est du Finistère, je ne sais plus à quel endroit. Il y a la lune qui brille là-haut, et quelqu'un dans la. Sur une sorte de foire ou de marché, hein, et quelqu'un dit : Ah, si je pouvais, je décrocherais la lune. Aussitôt, Jean de Lourdes qui entend ça, s'allonge en hauteur, en hauteur, en hauteur, en hauteur, et avec la bouche, il saisit la lune. Voilà. Voilà ce que fait Ogbras. Vous saviez ça, vous, les Bretons ? C'est la bretonnerie de base.
Vous n'êtes pas venu pour rien.
Bon. Voilà, donc c'était en gros la seconde épreuve de Jean de Lourdes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, l'épreuve consiste à ce qu'il se fasse géant. Bon, après, il va rester géant, vous le savez, puisque c'est là qu'il va construire les monts d'Arrée, la baie de Brest, et il n'y aura pas de troisième épreuve, puisqu'il va mourir avant. Donc, et c'est là, donc, comme je disais tout à l'heure, la marraine se change en chien noir pour veiller sur sa tombe. Voilà. C'est presque une histoire romantique. Mm-hmm. Presque. Pas trop. Bon.
Il y avait précision sur Tangata Manu.
Ah, Tangata Manu.
Attendez.
Tangata Manu, c'est donc Sabine Richard qui vient de trouver ça. C'est un homme-oiseau sur l'île de Pâques et qui, pour un an, oui. Est l'arbitre des conflits entre des clans. Voilà, et oui. Voilà, c'est un arbitre entre des clans et qui se transforme pour un an, si je comprends bien, l'arbitre, oui, voilà, comme un homme-oiseau. C'est l'homme-oiseau.
Je vois. Si on relie ça au thème d'une chose oiseau, on a une inversion horizontale. Oui, parce que je connais le rite pascal dont il est question là. Effectivement, une fois par année, les jeunes gens se jetaient à l'eau dans à la pointe, comment on dit, sud-ouest de l'île de Pâques. Ils se jetaient à l'eau pour aller chercher sur des récifs en face des œufs d'oiseaux de mer qui venaient d'être pondus. La mer était évidemment extrêmement houleuse, et donc celui qui réussissait, il avait un prestige extraordinaire. Donc il fallait aller là-bas, nager, surmonter la mer houleuse, attraper les œufs d'oiseaux, revenir avec les œufs sans les casser. Hein, et à ce moment-là, il avait effectivement, c'est dit par le monsieur, la personne, enfin bon, il gagnait le titre d'homme-oiseau. Et il était pendant un an, jusqu'au prochain. C'est très intéressant, oui. Voilà, si on rapproche, effectivement, il y a des nichements d'oiseaux, d'oiseaux, tout à fait. Mais ça, c'est horizontal, hein, c'est à travers la mer, horizontal.
Alors, d'autres précisent, Anne Marchand qui vous salue aussi, qui précise qu'il y a une version normande de Jean de Lourdes, bon, oh, oui. Avec les références. Et d'autre part, elle précise, elle demande, il me semble que ces récits valorisent les personnages masculins.
Bah oui.
Par ailleurs, Jean de Lourdes est muni d'une canne ou d'un bâton, Gargantua aussi. Est-ce que d'autres.
Ah oui, oui. Voilà. Oui.
Et puis, une autre, Magali Cotreau, qui précise « Et la sorcière, vieille femme, dans certaines versions, de Jean de Lourdes. »
Oui, oui, personnage, c'est ça. C'est ce que j'avais dit, c'est le petit être qui surgit, là. Ça peut être un génie ou ça peut être une sorcière. Hein. Ouais, elle n'a pas un rôle extraordinaire, d'autant plus qu'elle peut aussi bien être masculin. Bon, voilà. Donc, si on fait un bilan de ce C'est vrai qu'il y a beaucoup. J'ai parlé de points communs mythologiques entre Gargantois et Jean de l'Ours, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre Jean de l'Ours et Gargantois. Dans certaines versions du nord de la France, Jean de l'Ours est un géant. Il est explicitement dit géant. Donc, comme Gargantois. Et effectivement, il y a toujours ce bras de fer.